Bonsoir et bienvenue dans le feuilleton de France Culture. Ce soir et tous les soirs de cette semaine, fiction et histoire se croisent en direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Mai 68 s'est beaucoup écrit à travers les affiches, les slogans. Deux historiens l'ont très vite compris, Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les rues, dans les poches, les salles de réunion, auprès de leurs amis. Parmi plusieurs milliers de tracts et de journaux, ils ont retenu 362 textes, reproduits et commentés dans un livre intitulé « Journal de la commune étudiante, textes et documents, novembre 1967-juin 1968 », un livre paru dès le début de l'année 69. À l'occasion de la réédition de cet ouvrage aux éditions du Seuil, nous avons proposé à Sophie Maurer, écrivain universitaire, de composer un feuilleton polyphonique en taillant un chemin dans tous ces documents. Voici donc ces pages volées au journal de la commune étudiante. On retrouve tout de suite le réalisateur Christophe Hoquet et son équipe en direct du studio 118 de la Maison de la Radio.
Épisode 5, juin 68, la retombée.
Du 30 mai au 18 juin, c'est la retombée du mouvement. Dans toute la France, les manifestations gaullistes se multiplient. La résistance des métallos à Paris, à Sochaux, à Lyon, faite aux yeux des étudiants figure d'épopée. Flin est un symbole et un espoir, mais l'évidence de la reprise du travail est là. Les journées de juin suivent ainsi un processus symétrique mais inverse à celle de mai. Les actions regroupent de moins en moins de monde jusqu'au rassemblement du 17 juin, bien amer face au meeting du 8 mai. Malgré les coups qui lui sont portés et notamment la dissolution, le 12 juin, des groupes d'étudiants révolutionnaires, le mouvement étudiant ne prend pas toujours conscience de cette retombée.
Les accords d'entreprise avaient joué à la RATP et les autobus sortaient des dépôts pour reprendre contact avec la chaussée parisienne où on ne les avait pas vus depuis longtemps. Les stations de métro rouvraient leurs portes. Mais c'est surtout dans l'industrie automobile que la reprise paraissait difficile. Citroën avait demandé à son personnel...
Pour affirmer sa détermination dans la poursuite du mouvement, l'UNEF, par exemple, appelle dans un tract à une manifestation Gare Montparnasse le 1er juin. Au cri d'élection trahison, elle réunit 40 000 personnes.
Depuis le début du mois de mai, l'ampleur du mouvement a été telle que la bourgeoisie a pris peur et tente de se ressaisir en se rassemblant autour d'un pouvoir qui s'effondrait.
Son jeu consiste à essayer de canaliser le mouvement actuel dans la perspective d'élections où l'argent du patronat et les combinaisons électorales lui permettront de sauver les meubles.
On ne peut tomber dans un tel piège. Certains semblent n'avoir d'autres perspectives concrètes que la préparation des élections.
Ce n'est pas là notre objectif.
Abat le gaullisme, le pouvoir aux travailleurs.
La lutte continue.
Du côté de la coordination des comités d'action, un tract met également en garde contre la tentation électorale.
Afin de briver le mouvement de 10 millions de grévistes qui menaçaient de renverser le pouvoir gaulliste, celui-ci a ordonné la réélection du Parlement comme seule réponse aux exigences non satisfaites des travailleurs.
Ces élections sont donc
une manœuvre contre-révolutionnaire.
C'est parce que le mouvement s'est développé en dehors du Parlement qu'il a réussi à faire reculer le pouvoir des patrons.
Ce Parlement n'est que l'arme de la bourgeoisie qui s'en sert quand elle le veut bien.
Ce n'est pas l'arme des travailleurs.
L'arme des travailleurs, c'est la lutte de masse.
Et la grève générale.
La bourgeoisie ne lâche pas son pouvoir dans les urnes.
On le lui arrache dans les usines et dans la rue.
Le régime reste à abattre.
La lutte continue.
Un tract anonyme, mais dont la rhétorique rappelle celle de la Fédération des étudiants révolutionnaires, renchérit.
On fait descendre dans la rue quelques dizaines de milliers de bons citoyens pour montrer
que la France respectable ne se laissera pas faire.
En fait, la condition de la victoire contre la bourgeoisie,
en fait,
c'est que la ligne de l'offensive l'emporte
à l'intérieur du mouvement ouvrier
sur la ligne de la capitulation.
La décision peut encore être emportée.
Le lundi 3 juin est marqué par la reprise dans les banques et les mines, ainsi que par des votes à l'initiative des syndicats à la RATP et à la SNCF. Les analyses des jeunesses communistes révolutionnaires et du mouvement du 22 mars divergent sur le sens à donner à cette amorce de reflux. La parole est d'abord aux jeunesses communistes révolutionnaires dans le numéro 5 de leur publication intitulée « Aujourd'hui », sortie le 3 juin.
L'allocution de De Gaulle était une sommation.
Petit A.
La lutte en cours est une lutte de classe caractérisée.
Petit B.
Si l'affrontement devient nécessaire, l'État bourgeois fera son devoir.
De Gaulle tranchait ainsi dans le vif
les louvoiements d'appareil.
Si le mouvement connaît aujourd'hui une stabilisation ou un recul,
il entre dans une phase d'organisation où demeurent les éléments les plus solides.
Il nous faut agir.
L'organisation et l'explication politique doivent prendre maintenant le pas
sur l'agitation proprement dite.
Si les reprises de travail sont massives dans certains secteurs déterminants,
transport notamment,
il serait irresponsable d'encourager les irréductibles
à des barreaux d'honneur en prenant avec panache le jusqu'au bout
contre vents et marées,
risquant ainsi que les militants les plus combatifs ne s'usent
et ne se démoralisent dans des luttes d'arrière-garde,
en s'exposant d'autant plus à la répression qu'ils seraient plus isolés.
Il est maintenant clair
que le spontanéisme des masses ne peut suffire
à faire déboucher un mouvement
sur une prise de pouvoir révolutionnaire.
La révolution
est une science
qui s'apprend.
Le 5 juin, le mouvement du 22 mars publie en réponse directe au JCR un article intitulé « La contre-révolution est une science qui s'apprend » dans sa publication « Tribune du 22 mars ».
L'action spécifique du mouvement du 22 mars ne saurait se ramener à l'affrontement direct avec le pouvoir d'État, à la redécouverte de formes violentes. Il n'a pas été la goutte qui a fait déborder le vase, le catalyseur, etc.
Quoi qu'en pense un certain nombre d'esprits sociologisants, la société de consommation n'a nullement réduit les potentialités de violence dans la société actuelle. Simplement, celle-ci était réduite,
parcellisée,
intégrée.
L'action spécifique du 22 mars, c'est d'avoir déjoué politiquement les méthodes de canalisation des institutions étatiques, des syndicats et du parti.
Normalement, entre guillemets, quand les flics barrent le passage d'un édifice comme la Sorbonne,
on négocie,
on se retire,
on proteste,
on fait des motions. Normalement, entre guillemets, il y a des gens en place pour jouer le jeu de cette négociation.
Représentants de l'UNEF,
des syndicats,
les élus,
etc. Là, le mécanisme n'a pas joué.
Aujourd'hui, les maniaques de la période montante et de la période descendante ont décrété le repli général et ils commencent à compter leurs billes.
D'où ces appels à la discipline retrouvée,
à l'organisation,
aux perspectives à long terme.
En fait, le mouvement de lutte n'est absolument pas en recul. Il cherche de nouveaux moyens et de nouvelles armes.
Les groupuscules qui prétendent capitaliser l'avant-garde veulent canaliser un mouvement dans des cadres d'organisation qui ont fait la preuve de leur faillite.
On voit déjà refleurir l'idéologie réactionnaire de l'organisation pyramidale,
le CC,
le BP
et le secrétariat,
le parti d'avant-garde,
les organisations de masse courroie de transmission, etc. Une forme originale d'organisation révolutionnaire est à la recherche d'elle-même
à travers la lutte
et également dans l'effort pour déjouer les manœuvres de spécialistes chevronnés de l'organisation révolutionnaire,
ceux qui prétendent disposer d'un capital idéologique,
d'un savoir absolu dont les masses auraient tout à attendre.
Aujourd'hui, les comités de base mènent leur action à la façon de la guérilla.
Vouloir les unifier trop tôt, ce serait les stériliser à coup sûr.
Si tu es fier d'être policier comme ton collègue, si tu es fier d'être policier.
Le mardi 4 juin, le travail reprend dans les arsenaux et à l'EDF. Le mercredi 5 et le jeudi 6 juin, les reprises se précisent. RATP, Postier, Mineur, SNCF. Les CRS occupent les usines Renault de Flins. Les militants du 22 mars et de l'UJCML se portent aussitôt sur place. Un tract du mouvement du 22 mars est publié le 7 juin. Il s'intitule « Flins, déterminés à résister ».
Au moment où plusieurs secteurs en grève reprennent le travail après satisfaction de certaines revendications, gage de la gauche parlementaire au pouvoir gaulliste,
la bourgeoisie a choisi de frapper la partie la plus consciente de la classe ouvrière
afin de briser le processus révolutionnaire engagé.
Chez Renault,
à Flins,
les CRS ont d'abord envahi l'usine,
attaquant le piquet de grève à l'aide d'une vingtaine de half-tracks qui ont foncé sur la porte à 60 km/h.
3000 CRS occupent l'usine.
Mais la riposte ouvrière s'est organisée.
À l'appel des travailleurs,
plusieurs milliers d'ouvriers et d'étudiants se sont réunis devant l'usine à 5h du matin. Les ouvriers ont décidé de poursuivre la lutte jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications.
Vers 10h30, les flics ont chargé,
utilisant immédiatement des grenades offensives à fort pouvoir explosif.
20 manifestants ont été blessés.
Les flics chargent encore.
Le combat continue.
L'avenir du processus révolutionnaire se joue à Flins.
Ce matin à 9h, plusieurs milliers d'ouvriers à 600 mètres de l'usine. Des délégués syndicaux demandaient la reprise des négociations interrompues avec la direction. Alain Gesmard, ex-secrétaire général du SNESUP, y affirmait la solidarité des travailleurs et des étudiants, d'ailleurs présents ce matin à Flins.
Le 8 juin, tandis que l'humanité dénonce les groupes Gesmard, c'est-à-dire les étudiants qui ont réussi à gagner Flins, les policiers commencent à ramasser tout ce qui a l'air un peu jeune. Le mouvement du 22 mars et les situationnistes évoquent les faits dans le style qui leur est propre. Du côté du 22 mars, un tract intitulé « Flins, autodéfense ».
Une faute de la bourgeoisie.
Une lutte exemplaire.
Des milliers de CRS envahissent Flins.
La riposte est immédiate.
Poursuite de la grève.
Une journée de combat oppose 5000 travailleurs.
Et quelques centaines d'étudiants à la répression.
La solidarité s'organise.
Aujourd'hui, samedi.
Dimanche et lundi. Il ne s'agit pas d'appeler à une solidarité verbale ou à des promenades.
Mais d'organiser réellement l'autodéfense de Flins.
Point de mire de la classe ouvrière.
Tous unis dans la lutte.
Tous unis contre la répression.
Du côté des situationnistes du Conseil pour le maintien des occupations, un tract intitulé « C'est pas fini ».
Les bureaucraties syndicales ont toujours été payées pour transformer la contestation radicale en lutte partielle. Leur survie exige le réformisme. Les syndicats ignorent la lutte des classes. Ils ne connaissent que les lois du marché et dans leur commerce, ils se prétendent propriétaires des travailleurs. Ils ne peuvent que négocier avec le pouvoir. Les syndicats sont l'ultime rempart du capitalisme. Le mouvement actuel a découvert sa richesse. Les bureaucrates comme les patrons n'ont plus qu'à disparaître. L'autogestion est la fin et le moyen de la lutte prolétarienne. Pas d'unité avec les diviseurs, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Vive le pouvoir international des conseils ouvriers.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a?
Et puis Chabagnon. Le 9 et le 10 juin, les ramassages policiers se poursuivent. Parallèlement, la répression s'accentue avec les expulsions arbitraires d'étrangers. Le tract du mouvement du 22 mars, publié le 10, donne un aperçu de ce climat.
À Flins, ce 10 juin,
l'ordre policier règne.
Toute la région est quadrillée.
Gendarmes à la croisée de la Nationale 13.
Bretelle autoroute.
Le long de l'usine des eaux.
Derrière Flins.
Près du Petit Bois.
À pied.
Un gendarme tous les 10 mètres, fusil au poing.
Voiture radio.
En un quart d'heure.
Sur l'autoroute de l'Ouest.
Montant vers Flins.
6 convois d'une dizaine de camions montent chargés de CRS.
Porte de Saint-Cloud, à la sortie de l'autoroute. Les flics se livrent à la chasse aux faciès.
Est arrêté tout ce qui ressemble à un étudiant.
Flins est devenu zone interdite.
Là aussi, le pouvoir prépare les élections législatives.
Le 10 juin, un lycéen de 18 ans, Gilles Totin, se noie à la suite d'une intervention policière. Une manifestation éclate spontanément au quartier latin dans la soirée. Le 11 juin au matin, un tract signé des syndicalistes prolétariens CGT du mouvement de soutien aux luttes du peuple et de l'IJCML lui rend hommage.
Un camarade est mort.
Un jeune lycéen.
Gilles Totin.
Du lycée Mallarmé.
Un militant du mouvement de soutien aux luttes du peuple.
Un militant de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes.
Il est mort à Flins.
Il est mort matraqué par les flics.
Noyé.
Ce gouvernement d'assassins fait horreur au peuple.
Aujourd'hui, il voudrait faire payer le peuple.
Lui faire oublier qu'il est une force invincible.
Il voudrait le diviser.
Le réprimer.
Il ne le pourra pas.
Comme tous les réactionnaires, le gouvernement gaulliste sous-estime la force du peuple.
Notre camarade est mort.
Camarade, ton nom est désormais inséparable de la révolution populaire du printemps de notre peuple.
Nous te faisons le serment de suivre la voie que tu as tracée de ton sang.
Le sang des prolétaires.
Le sang de notre camarade lycéen.
De ceux qui sont morts sans que le peuple le sache.
Et pour nous tous,
le sang des martyrs.
Dans la journée du 11 juin, la situation se tend encore.
À Sochaux, la semaine a été lourde. Les obsèques du jeune ouvrier Jean Bellot, qu'une grande foule a suivi, ont rappelé la gravité des échauffourées qui ont eu lieu aux usines Peugeot après leur occupation par les forces de police. 2 morts, 67 blessés. Dans la métallurgie, la persistance...
Un ouvrier est tué par balle à Sochaux. Un deuxième meurt en cherchant à échapper au CRS. Un appel à manifester Garde l'Est est lancé par l'UNEF, les comités d'action lycéens et les comités d'action. La police tente d'empêcher la manifestation de se former. Des heurts violents ont lieu toute la nuit, des barricades sont dressées un peu partout. Au matin du 12 juin, toute manifestation est interdite. Les organisations d'extrême gauche sont dissoutes par le gouvernement. Fédération des étudiants révolutionnaires, Jeunesse communiste révolutionnaire, Voix ouvrière, Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, Mouvement du 22 mars, puis Parti communiste marxiste-léniniste de France, Organisation communiste internationale, Parti communiste internationaliste. Les mouvements dissous appellent à une manifestation bientôt transformée en meeting à la cité universitaire. S'ensuit une violente campagne de presse contre le mouvement étudiant, de Paris Jour à l'Humanité, en passant par Le Monde, où Bertrand Giraudelin dénonce le bateau ivre qu'est devenu la Sorbonne et révèle au grand public l'existence des Katangais présents dans l'université, groupe où un ancien mercenaire du Katanga et quelques anciens de l'OAS côtoient surtout des membres du sous-prolétariat victimes du chômage. Le 13 juin, la Sorbonne est progressivement fermée pour nettoyage et réorganisation par les étudiants, et l'Odéon est investi et repris par la police. Tandis que le nettoyage de la Sorbonne par les étudiants se poursuit, le 16, au début de l'après-midi, l'université est brusquement encerclée par les forces de police qui prétendent se livrer à une enquête sur le sort d'un jeune homme blessé au couteau. Les derniers occupants de la Sorbonne sont expulsés. En fin d'après-midi, des bagarres éclatent un peu partout, du quartier latin à Saint-Sulpice. Le numéro 11 du journal Action sort le 17 juin, son titre « Complot contre la Sorbonne ».
Pendant plusieurs jours, la presse et la radio ont été les meilleurs alliés du pouvoir.
Vendredi,
samedi,
dimanche,
pour le gaullisme,
une page de Del Duca et un bulletin radio de Paoli valaient 100 grenades.
RTL, un escadron de garde mobile.
Les meurtres de Flins et de Sochaux, la semaine dernière, avaient été passés sous silence. La presse avait mieux à faire. Elle parlait des Katangais. Et puis Guéna, le ministre de l'Information, l'avait dit lui-même.
Ces morts n'étaient que des hasards tragiques.
L'heure était aux élections.
Les CRS avaient quitté Sochaux.
Des grèves qui continuaient, on n'en parlait plus.
La plupart étaient censément terminées.
Chacun parlait de la reprise du travail.
La presse n'allait pas émettre de son discordant.
Il n'y a plus qu'une ombre au tableau.
Les étudiants.
La Sorbonne.
Vendredi, le matin commence à peine que la police investit l'Odéon. Les derniers cordons viennent faire de l'intimidation. Matraque tournoyante jusqu'au coin de la rue de la Sorbonne.
Depuis 5h30 du matin, les étudiants et les travailleurs ont expulsé les supposés légionnaires katangais.
Le pouvoir a perdu un prétexte qui lui a coûté plusieurs tonnes de papier journal.
Beaucoup de salive radiophonique.
Et c'est sûr, quelques liasses dans les poches des dits légionnaires.
Dès vendredi, dans la presse et à la radio, la contre-attaque commence.
On ne parle plus des katangais.
Un seul thème.
Les étudiants nettoient la Sorbonne, les CRS l'Odéon.
Le Parisien libéré n'est jamais le dernier dans l'abjection, titre.
La Sorbonne désinfectée,
l'Odéon évacué par la police.
Et en sous-titre.
La sagesse est en route, déclare Monsieur Georges Pompidou.
L'Aurore, à qui ces quelques semaines n'ont même pas appris à distinguer une matraque d'un balai, titre.
Le grand coup de balai à la Sorbonne et à l'Odéon.
Les exemples ne manquent pas.
Aron s'est tiré la conclusion dans le Figaro.
Reste à savoir si l'État bourgeois entretiendra une école révolutionnaire et quels emplois, en dehors de celui de guérilleros, trouveront les étudiants formés à la contestation permanente.
La réponse ne se fait pas attendre.
Le bulletin d'information de RTL annonce à 13h.
On s'est battu à la Sorbonne. Cette nuit, un jeune homme y a été gravement blessé. Une enquête est en cours. La police a pris la Sorbonne.
Le ton change au fil de l'après-midi.
À 16h, le jeune homme n'a pas été blessé dans la Sorbonne, mais vers le carrefour de l'Odéon, et la police n'a pas investi la Sorbonne, qui serait simplement quadrillée.
Un peu plus tard,
on annonce que l'hôpital de l'Hôtel Dieu, où le blessé est censé avoir été accueilli, n'a pas à sa connaissance de sa venue.
La manœuvre est déjouée.
Le prétexte devient complètement inconsistant, mais personne ne s'en étonne.
Vers 17h30,
Pompidou vient mettre les points sur les i et le prétexte à sa juste place.
Il déclare:
il fallait que cela se fasse.
Raymond Aron a été entendu.
Je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va y arriver, l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on ne pourra plus rien.
Le lundi 17, le travail reprend dans la métallurgie, particulièrement chez Renault. Le 18 juin voit pleuvoir les tracts rédigés comme la date y invite, sous forme d'appel. D'abord, du côté du mouvement du 22 mars.
Les chefs, qui depuis le 13 mai 1958 sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant notre défaite, s'est mis en rapport avec les chefs de l'OAS pour nous faire cesser le combat. Certes, nous avons été submergés par les forces mécaniques,
terrestres,
aériennes
et hertziennes de l'ennemi,
infiniment plus que leur nombre et leur matériel.
C'est le martèlement des bottes sur les écrans de télévision
et l'intoxication massive de la presse et des radios qui nous font reculer.
Ce sont les complicités manifestes et la rapidité du recours à l'illégalité qui nous ont surpris au point de nous amener là où nous sommes aujourd'hui.
Mais le dernier mot est-il dit ?
L'espérance doit-elle disparaître ?
Le recul est-il définitif ?
Non.
Nous qui vous parlons en connaissance de cause, nous vous disons que rien n'est perdu pour la révolution.
Cette révolution n'est pas limitée à notre pays.
Cette révolution n'est pas tranchée par les journées de mai.
Cette révolution est une révolution mondiale.
Toutes les fautes, Tous les regards n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser nos ennemis.
Atteints aujourd'hui par notre faiblesse mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force révolutionnaire supérieure.
Le destin du monde est là.
Le mouvement du 22 mars invite tous les révolutionnaires qui se trouvent en territoire français
ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes
ou sans leurs armes,
travailleurs et étudiants,
à s'organiser.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance populaire ne doit s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui,
nous parlerons.
De mai 68, très mauvais souvenir. Un homme qui n'était pas français, qui s'est occupé de la France et de la politique de la France. Ça, je ne l'accepte pas.
Il y avait, il y avait des inscriptions partout, c'était très sale. Ouais. Là, quand on va à Tolbiac l'autre jour, on n'est pas très, c'était pas très glorieux. Quoi. Franchement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, effectivement, de superbe là-dedans, et c'était n'importe quoi.
Je connaissais tous les tracts. À chaque fois que je sortais dans la rue, qu'on me donnait un tract de droite, de gauche, etc., je le mettais dans un cahier. Et ma mère les a balancés.
Les cailloux, les pierres, hein, les policiers, c'est vraiment la révolution. Mon père, moi, s'il m'entend déjà, il va se retourner dans la tombe, mais il y avait De Gaulle, il y avait tout. C'était quand même des gens qui étaient vraiment, qui ne s'occupaient pas du social, du tout. À ce point de vue-là, il n'y avait rien. Au point de vue social, il n'y avait rien. Rien. Alors, quand
on n'allait pas se révolter comme ils sont révoltés.
Mais tu ne te rends pas compte que quand il n'y a pas de révolution, il n'y a rien.
Il n'est pas l'habitude. Il vient de l'Espagne. Puis, il était rentré d'Espagne ici. Alors, moi, j'ai trouvé ça un petit peu choquant.
Mais s'il n'y avait pas ça, tu aurais toujours ton bon franco.
Et à l'époque, c'était vraiment le seul moyen d'expression qu'il y avait. Il n'y avait pas tous les médias, il n'y avait pas tout ça. Il y avait un pouvoir politique très répressif, avec une France qui était vieille.
Mai 68, moi j'ai des neveux, c'était très très bien, mai 68.
Un tract imprimé sous forme d'affichette et signé. La Révolution, le comité de l'information libre, fleurit sur les murs du quartier latin.
Appel du 18 juin 1968.
À tous les Français.
La France a perdu une bataille.
La France n'a pas perdu la guerre.
Les mandarins du syndicalisme et de la politique ont pu capituler.
Cédant à la panique.
Oubliant l'honneur.
Livrant le peuple à la servitude.
Cependant, rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. Parce que notre lutte est une lutte permanente.
Dans le monde entier,
des forces immenses n'ont pas encore donné.
Un jour, ces forces écraseront l'ennemi.
Ce jour-là, nous aurons conquis notre dignité.
Voilà pourquoi tous les Français,
où qu'ils se trouvent,
doivent s'unir dans l'action.
Et dans l'espoir.
L'esprit est en péril de mort. Luttons tous pour le sauver.
Vive la rage.
Pierre Vidal-Naquet.
Présentation et choix des documents, Sophie Maurer. Avec Emmanuel Destremeau, Florence Mazot, Hector Manuel, Joachim Pavi, Georges Slovic, Judith Zins, Rose Martine et Eugène Marcuse. Musique originale composée et interprétée par Stéphane Bissière. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Dali Yara. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation en direct de Christophe Hoquet. Le journal de la commune étudiante est publié aux éditions du Seuil.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.